Noir, deuxième partie. Tu nous as parlé d'un livre qui se passe en Inde par rapport à un mystère autour d'un train. Je crois que tu vas rester sur les rails.
Eh bien, on va rester effectivement dans les trains avec une deuxième attaque de train. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'attaque tout à l'heure dans le roman d'Abir Mukherjee, mais cette fois-ci, il y a aussi une deuxième attaque de train. Mais on n'est pas du tout en Inde, on est en Afrique. Dans un roman du célèbre Donald Wesley qui s'appelle Kahawa, donc ça veut dire café en fait.
Kawa.
Kawa, voilà.
Oui, c'est Kawa.
Comme il y a deux A, oui, Kawa, oui.
Kawa, eh ben oui.
Le roman est paru chez Rivage Noir dans la collection de Poche. Il est traduit par Jean-Patrick Manchette, ce qui n'est quand même pas rien.
Il fut traduit
à l'époque. Oui, parce qu'en fait, c'est une réédition qui est bienvenue parce que ça fait longtemps que ce roman avait quitté les rayons des libraires. Alors je dis poche, il faut quand même une bonne poche parce que le roman fait 608 pages et donc presque 4 cm d'épaisseur. Donc ne déformez pas vos poches de costume. Le roman date de 1981 et il a été traduit en fait qu'en 1997 par Jean-Patrick Manchette. Donc pourquoi les trains, je l'ai déjà dit. Eh bien parce qu'en fait, le but des deux héros de ce roman, Lou Brady et Frank Lanigan, deux escogriffes, le but c'est de voler le contenu, voler un train en fait plutôt, carrément le train, contenant l'équivalent de 6 millions de dollars en grains de café.
Après, il faut les écouler.
Et 6 millions de l'époque, ça, c'était déjà une belle somme, mais maintenant, ça ferait encore... Il faut les écouler, mais ça, ils ont le plan pour les écouler. Le plus dur, en fait, c'est de piquer le train. Parce qu'un train, quand même, c'est gros. Alors, on est en 1977, en Ouganda. Idi Amin Dada règne en maître. Et parmi les fomenteurs de ce hold-up, eh ben, il y a pas mal de gens qui aimeraient bien voir le dictateur déchoir. Westlake, dont on connaît le talent pour raconter des histoires, pour inventer des braquages rocambolesques, va nous embarquer dans une aventure africaine digne des meilleurs romans, des meilleurs films. Et comme c'est du Westlake, il va y avoir de l'humour, on le sait, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il y a toujours un personnage qui va faire déraper l'affaire de façon cocasse.
Comme dans ses célèbres Dorking Turn.
Voilà, exactement. Bon, enfin... La cocasserie dépend toujours de l'endroit où l'on est ou de l'endroit où on voit l'action. Parce qu'il y a des moments, c'est pas forcément cocasse pour tout le monde. Ce roman, c'est pas souvent, dans les Westlake, ce roman est assez chaud. Hot, disaient les Américains. Parmi les personnages, il y a une femme. Bon, il y en a plusieurs, mais il y en a une en particulier qui est hyper sexy. Pilote d'avion, la belle amie d'un des protagonistes. Et ma foi, cette belle dame n'a pas froid aux yeux, ni ailleurs d'ailleurs. Ce qui nous vaut quelques scènes qui sont parfois un peu plus qu'érotiques.
On pourrait d'ailleurs rappeler que Donald Westlake a commencé sa carrière en...
C'est exactement ce que je m'apprêtais à faire.
Voilà, en produisant des romans érotiques.
Il a commencé par des romans érotiques, il a même fait des romans porno pour gagner sa vie quand ses romans plus académiques, disons, ne le permettaient pas. Oui, c'est ce que je disais, en fait, donc il s'était fait la main à l'époque. Donc, pour les passages olé olé, comme dirait ma maman, de ce polar, c'est très bien décrit. Il y a pas mal de violence aussi. Les milices d'Amin Dada n'étaient pas connues pour leur amabilité, disons, ni pour leur bonne manière. Et quand ils veulent faire parler quelqu'un dans leur geôle, cela fait souvent mal et ça peut vite devenir sanglant. Dans son roman, Westlake se mêle aussi de politique. Ce n'est pas souvent, mais là, il raconte à la fois les exactions de Amin Dada, mais aussi la collusion de certains gros industriels qui voient dans le café et dans d'autres sources naturel, la source de gigantesques profits, alors pour eux, les petits à côté, si j'ose les traiter comme ça, les petits à côté de la dictature, ce ne sont que roupies de Sansonnet, pour revenir à notre roman de tout à l'heure.
Oui, puis c'est pas la première fois, ni la dernière, qu'on se sert d'une dictature pour faire un maximum de produits.
C'est d'ailleurs la même chose.
De profits, pardon.
Exactement. C'est aussi la même chose pour les chancelleries, les diplomates, ou pour les services secrets qui ont... pour certains, en tous les cas, tout intérêt à maintenir le dictateur en place pour préserver les intérêts, justement, de leurs propres ressortissants. Si l'on devait trouver un petit défaut à ce polar de Westlake, qui est quand même jubilatoire, un vrai roman d'aventure, c'est que l'Afrique décrite est une vision quand même assez américaine, presque exotique. Néanmoins...
Oui, bon,
voilà, c'est un peu ça. Il essaye quand même, mais bon...
Tintin au Congo, quoi.
Voilà. Ça. Mais bon, évidemment, quand on est un lecteur de Stock dans l'Arkansas ou même de Vierzon, je ne suis pas sûr qu'on voit vraiment la différence entre l'Afrique décrite par l'Américain et celle décrite par un Français.
Ah oui, ça c'est évident. Mais... Par contre, par quelqu'un qui ne s'en moque pas, c'est différent. C'est...
Bien évidemment, mais là, bon, c'était... Voilà, c'est aussi un roman de divertissement, donc il prétend pas raconter une histoire vraie. Il le dit d'ailleurs, il dit qu'il y a des choses qui... dans la préface, postface, pardon, il dit qu'il y a des choses qui sont absolument vraies, d'autres qu'il a complètement inventées, car c'est la liberté la plus grande de l'auteur.
C'est un écrivain, tout à fait.
On va changer complètement de style,
d'après ce... Ah, on change complètement d'univers du style, d'ambiance, un roman très, très, très noir, mais un de mes grands, grands coups de cœur de cette rentrée. C'est donc un roman noir de Valentine Imhoff qui est paru très très récemment aux éditions du Rouergue. Ce roman s'intitule Zippo.
Comme le briquet.
Comme le briquet. Ben, de briquet, il va en être question. Briquet, flamme. Vous rappelez-vous du mythe de Prométhée ? Celui qui, dans les mythologies anciennes, vola le feu pour le confier aux hommes. Pour Platon, nombre de philosophes, le feu, c'est l'outil universel, l'outil pour faire les outils. C'est donc en quelque sorte l'intelligence. C'est une des entrées du roman. Prométhéus, c'est aussi le nom, le surnom, dans des milieux très particuliers, dans des bars, des clubs, où se rencontrent les adeptes du SM, le sadomasochisme. Le sadomasochisme, pas facile à dire. On apprendra peu à peu le passé de ce personnage, son, je cite, horizon vacillant, son horizon vertical, qui est en fait devenu son horizon disparu. Accident, ses amis décèdent, lui pas. Et il va tenter de les ressusciter grâce au feu. Ne parle-t-on pas d'ailleurs du feu de la vie ? En les sculptant, en ferraille, tel un Vulcain. Je vais vous citer un extrait du roman. Les coups secs et obstinés éclatent et rebondissent d'un mur à l'autre, saturent la pièce d'une trame encore intriquée, assourdissante, l'enferment dans une nasse de bruit qui remplit tout et qui l'enserre. Les vibrations des tubes d'acier pénètrent les fibres de ses muscles. Il entre en communion avec le métal, le fait parler à travers lui, à la manière d'un oracle. Sent l'exaltation qui le gagne peu à peu et imprime son rythme à l'étrange liturgie dont il est à la fois le célébrant et le dieu. Lorsqu'il arrête enfin, le son continue à volter, palpitant, dans l'atelier et dans son crâne. Il attend, harassé qu'il se dépose lentement, légèrement, à la manière d'une pluie de cendres. Il se réaccoutume en silence du sous-sol, dense, épais, coagulé. Les dernières scories sont éliminées d'un coup de brosse énergique. Il effectue ensuite un deuxième cordon de soudure, dont la netteté et la solidité le satisfont. Voilà la mélange des mythes, parce que, voilà, comme une sorte de sculpture, de façonner des golems qui prennent vie petit à petit, ou qui reprennent vie, puisque c'est ses amis, qui sont disparus. Mais... Il essaye aussi de les faire revivre en promenant son zippo, donc ce briquet, sur la peau des femmes, d'une en particulier, Eva. D'ailleurs, la passion n'évoque-t-elle pas tout à la fois l'amour, la souffrance ? Ces deux-là, Eva et Prométhéus, se sont perdus. Ils fuient pour se retrouver. D'ailleurs, des lignes de fuite convergentes. La narration est parfaite de Valentine Imhoff, chaotique, enflammée, qui semble se perdre dans les méandres des destins de ses personnages pour mieux les cerner, les discerner. En face de Prométhéus, d'ailleurs en face ne convient pas, faudrait mieux dire à côté. Il y a Peter, le flic, lui aussi enfiévré. Bête de sexe, enfin tout du moins en apparence, peut-être pour éclairer. Et oui, le feu engendre aussi la lumière. Pour éclairer, dis-je, ses nuits sans sommeil, depuis que sa fiancée a été assassinée. Et puis, il y a Mia, sa collègue, une très belle femme d'origine nordique. Le feu et la glace ne s'épousent-ils pas ? Demandait Brel. Mia qui, pour résoudre une série de crimes, s'enfonce tout à la fois dans les nuits des clubs de sadomasochisme et dans ses souvenirs. Tous se frottent, se rapprochent, s'éloignent en une danse macabre. Toutes ces petites flammes qui vacillent semblent s'éteindre pour se raviver en l'instant, ou s'éteindre définitivement. De l'histoire, je n'en dirai pas plus. Une histoire de deuil, de mots qui se posent sur les silences abyssaux de ceux dont la vie n'est plus qu'un souffle, dont la vie est éteinte en fait de toute énergie ou tout espoir. Il reste à parler du style, de la narration, de ce très noir roman. Le premier roman de Valentine Imhoff, par les Rafales, qui était déjà paru dans la collection Rouergue Noir, nous avait scotché par l'écriture enflammée, dont les phrases roulaient, se tordaient, pour décrire le destin tordu d'Alex, dont nous savions dès le départ qu'il allait dans le mur. Ici, à l'aune du récit, les phrases virevoltent, enrobent chacun des personnages, se cassent, ou au contraire s'étire en de longs talking blues déchirants. Et puis il y a les riffs distordants, des boucles de boîtes à rythme envoûtantes, des psalmodies, parfois des logorées, parfois un minimalisme de mots, une économie comme si le récit retenait son souffle. Et si le propos est d'une noirceur impressionnante, la lumière vient du style, vient de la plume de l'auteur. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce roman, âpre et violent, inclassable, qui ne laissera personne insensible. Donc, précipitez-vous sur Zippo de Valentine Nemov aux éditions du Rouergue. Une pause musicale.
Tu parlais de deuil tout à l'heure, il y a quelques instants. On va écouter un extrait du nouvel album de Nick Cave et toujours de ses Bad Seeds. Un album sombre, sans guitare, où il y a juste le chagrin et le désespoir de la mort de son fils il y a déjà quelques temps. Et donc, l'album s'appelle Ghost In. Et le morceau qu'on va écouter, qui est le moins triste, s'appelle Galleon Ships.
Avant de l'écouter, ça fait partie de la bande-son, de la playlist de Valentine Nemov, qui cite très très souvent des musiciens et leur musique.
If I could sail a galleon ship long, lonely ride across the sky, seek out mysteries while you sleep, and treasures money cannot buy, for you know I see you everywhere, a servant girl and empress, my galleon ship will fly and fall, fall and fly and fly and fall, deep in. Before the daylight comes, a thousand galleon ships will sail ghostly round the morning sun.
terminé, après ces quelques notes de Nick Cave, par un roman d'Antonin Varenne qui est sorti au cours de l'été. Le roman s'appelle L'Artiste, il est paru à la Manufacture de Livres. En fait, c'est son dernier roman, mais c'est en fait plutôt son premier. Il était paru initialement en 2006 aux éditions Toute Latitude, et il a été entièrement revu par l'auteur, nous prévient son nouvel éditeur. C'est un roman parisien en 2001, juste après la chute des tours new-yorkaises. Ça, c'est pour restituer un petit bout d'ambiance. Dans le quartier de Ménilmontant, un beau matin frais, une jeune femme est découverte sur le sol devant un bar de quartier. Elle est tombée d'en haut, selon les propres dires d'un témoin. Suicide raté, puisqu'elle est toujours vivante, bien que très mal en point, tout comme l'un de ses deux enfants qu'elle a entraîné dans sa chute. Cette scène d'ouverture nous permet de découvrir le flic qui va arriver pour enquêter, l'inspecteur Ekman, lieutenant selon les nouvelles dénominations. Il va devenir le personnage principal du polar. Un flic pas vraiment bien dans sa peau, mais qui est la coqueluche des médias à cette époque. Ce suicide raté, ce suicide de désespoir, va le hanter tout au long de son enquête. L'enquête non pas sur ce suicide, qui est assez facile à déterminer, mais sur un tueur en série d'artistes. Des crimes savamment mis en scène vont se succéder. Des meurtres artistiquement réalisés qui vont décontenancer le flic et qui vont peu à peu lui donner l'impression que le tueur se joue de lui. Le policier, Herman, va avoir l'aide d'un jeune stagiaire de la Forensic, même si ça ne s'appelait pas comme ça encore en 2001.
Police scientifique.
Voilà, de la police scientifique. Et aussi d'un vieux médecin retraité, un vieil anard, à la mémoire affûtée et aux sentences souvent piquantes. J'en cite juste une. L'Église et la police, si vous me permettez une grande ligne, ce ne sont pas des temples de l'ordre, ce sont des lieux de pouvoir. Et le plus grand pied qu'on peut prendre avec le pouvoir, c'est celui d'échapper aux ordres. La joie du pouvoir, c'est la corruption, lieutenant. Antonin Varenne va nous faire vivre cette traque au plus près du flic, dans sa vie quotidienne, dans son désespoir latent, dans ses excès de colère. Dans la ville, les gens sont encore sous le choc des attentats, et pourtant il doit mener son enquête jusqu'au bout, avec un final assez surprenant. Nous ne sommes pas dans un thriller de serial killer avec son lot de gore, même si Antonin Varenne ne fait pas l'économie des hémoglobines. Mais comme le tueur est méticuleux, il y a fort peu de sang dans le récit. La force de ce roman, en fait, c'est l'écriture. L'auteur maintient la tension narrative tout au long des 280 pages, tout en nous entraînant dans un roman noir comme on les aime. Des implications sociales, des inférences politiques et des personnages bien travaillés. Des personnages qui ont de la chair. Il y a aussi quelques belles réflexions d'un personnage secondaire sur la paternité. Je ne sais pas si à l'époque ça concernait Antonin Varenne, mais ce n'est pas dans des réflexions qu'on entend habituellement. Et surtout, Antonin Varenne a ce talent de conteur que l'on a découvert dans ses romans précédents, qui sont en fait ses romans suivants. Il sait mettre un peu d'humour, un peu d'action, pour distraire quelque temps son lecteur avant de le renvoyer au cœur de l'intrigue. Dans ces moments de distraction, je vous recommande tout particulièrement la scène de Varap sur la tour Eiffel la nuit, qui est un petit bijou à la fois pour la scène elle-même et un petit bijou d'écriture. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce roman d'Antonin Varenne qui s'appelle L'Artiste. C'est du tout bon, donc lisez L'Artiste, publié à la Manufacture
de Livres. Et bien voilà, notre émission est terminée. Donc on va vous dire traditionnellement, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir.